De la DINDIC va nous présenter le RGAA et son cadre réglementaire.
Donc la DINDIC, c'est donc l'acronyme de la Direction interministérielle du numérique et du système d'information et de communication de l'État. Donc en fait, c'est l'équivalent d'une DSI holding, on va dire, coordonne les travaux de modernisation et de transformation des DSI ministériels, essentiellement. Donc on a entre autres en charge le fameux RGA, donc c'est l'acronyme de référentiel général d'accessibilité pour les administrations, qui est en fait le cadre réglementaire qui s'impose à toutes les administrations pour rendre accessible leur portail et leur site web d'information vis-à-vis des usagers, donc soit les citoyens, etc., dans les démarches, et pour tous les services publics qu'ils proposent à travers ces portails. Ce n'est pas que le site lui-même, mais c'est aussi les applications auxquelles vous pourriez accéder pour faire vos démarches. Voilà, elles sont toutes soumises à ce RGD. Alors, on va avancer un petit peu, c'est quelle touche? Je pense que c'est celle-là. Bon, là, c'est bon. Voilà, donc là je vous ai rappelé ce que c'était. On va passer rapidement. Donc comme c'est une réglementation, en fait elle est. C'est la traduction, je dirais, dans la réglementation française, de ce qui se fait à l'international, qui a été signalé déjà par des intervenants précédents. Donc, et on est conforme également à la directive européenne de 2002, etc. Donc, qui est concerné par le RG2A? Là, on a indiqué, bon, parce que c'était plus simple, toutes les administrations nationales et territoriales, mais en fait, il faudrait rajouter aussi tous les opérateurs qui sont sous tutelle des administrations. Donc, ça s'applique à, moi, ce que j'appellerais tout employeur public. Le mot est plus simple et plus compréhensible. Voilà, donc comme je vous le disais, c'est toute communication dite numérique vers le public et les agents, donc ça ne traite pas de l'accessibilité des transports et des déplacements, comme on l'a présenté tout à l'heure, mais c'est vraiment tout ce qui est numérique. Mais ça inclut également tous les documents qui sont mis à disposition à travers les sites. Et là, on rejoint d'autres problématiques qui ont été soulevées. Alors il faut savoir que c'est obligatoire pour toutes les administrations depuis 2012. Et malheureusement, les enquêtes qui ont été faites pour savoir combien il y avait de sites qui répondaient au moins au niveau 2A, ce qu'on appelle le niveau 2A dans le WCAG, qui est une sorte de niveau qui est satisfaisant, mais le pourcentage est très faible au niveau des sites de l'administration. On n'est pas un bon élève. Et comme il y a de plus en plus de sites qui se créent, puisque le numérique développe, eh ben, il y en a de moins en moins, je dirais, un pourcentage qui le sont. Donc c'est un peu gravissime. Alors on verra tout à l'heure, je pense qu'il y a dans les tables rondes, il y a des questions qui vont venir. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on peut faire? Etc. La réponse est assez simple. Donc en fait, ce référentiel général, il ne fait que traduire les grands principes qui ont été donnés par le WCAG dans sa version 2. Il a été remis à jour là pour prendre en compte toutes les normes et les standards définis dans le WAI, qui donnent des critères qui peuvent être validés par des tests. Et de façon assez simple, je suis conforme, je ne suis pas conforme sur chaque critère. Donc il n'y a pas besoin de chercher plus loin. Et après, par rapport à l'ensemble des critères, mais on mesure le taux de conformité qu'on peut avoir. Donc c'est disponible en ligne, hein, le RG2A, et puis toute la méthode. Et ça permet de vérifier sa conformité par rapport au standard WCAG version 2, donc la dernière. Bon, ça c'est juste un peu historique. Donc il faut savoir qu'on est bien en version 3 actuellement du RG2A, Et on a fait une mise à jour pour 2016. Et on en prépare une autre pour 2017. Puisque la technologie numérique, ça évolue relativement vite.
Est-ce qu'il est prévu la même chose pour les applications? Parce que là, on parle des sites web. Pour les applications, quand est-ce qu'il y a un RG2A pour les applications?
Il s'applique aux applications.
Ça n'a pas l'air d'être le retour qu'on a de la part des opérateurs.
On en parle après.
Oui, on en parlera après. Mais il s'applique aussi, si on lit bien le texte, et aux services numériques. Services de communication et aux services numériques. Et derrière le mot service numérique, c'est ce qu'on traduit pour les applications. C'est toujours le problème des textes juridiques, enfin, ou réglementaires, c'est qu'il faut avoir une certaine habitude de lecture. Donc techniquement, il est basé sur un dispositif qui est assez connu de ceux qui fréquentent le monde de la problématique de l'accessibilité du web, hein, donc le dispositif AccessiWeb. Donc comme vous aurez le support, moi je vais passer rapidement pour tenir le temps. Donc en fait, on n'est pas parti de zéro, on est parti de l'existant, de ce qui se fait, et on a capitalisé autrement, et on a transformé, nous, après un référentiel réglementaire. Voilà, capitalisation sur les acquis, il y a déjà tout un ensemble de gens qui ont été formés, et ça permet de réduire les coûts de mise en place d'un tel référentiel, donc évidemment, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Il faut savoir faire des économies. Hop, je fais le tour. Comme on disait, il fallait aussi. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à l'accessibilité et qui font des démarches, qui s'engagent. Et il faudrait pouvoir déjà reconnaître ces personnes-là, les mettre en avant par rapport à celles qui ne font rien. Donc on a essayé de mettre en place un modèle d'incitation, au moins pour les administrations. Parce que dans les textes réglementaires, en fait, les administrations sont juste soumise à faire une déclaration. C'est-à-dire, je suis conforme à RG2A. Le mettre sur leur site. Personne ne va aller vérifier. C'est une déclaration, un peu sur l'honneur, etc. Et nous, on s'est dit, il faut que. C'est pas que ça, c'est tout aussi une démarche de maintenir le contenu accessible, etc. etc. Donc, il fallait une incitation. Et cette incitation, on l'a créée à travers un label, qu'on a appelé le label e-accessible. C'est pour encourager vraiment ceux qui s'engagent dedans, et ça va mesurer aussi les efforts qui sont faits et qui veulent le maintenir. Puisqu'il y aura une feuille de route qui est prise en compte, etc. Donc, tout ça, c'est enseigné ailleurs, c'est juste. Et donc on a mis au point, mais pas aussi bien que CDWeb, qui était tout à l'heure, puisqu'on n'a pas pris les acteurs, il faut faire ça dans l'ordre, on a mis tout un peu dans le dedans, un peu. C'est mais des grilles d'audit qui vous permettent au lieu de parcourir et de reconstruire votre grille en lisant le RG2A d'un côté, et ce qu'on reproche évidemment à tous les textes réglementaires, c'est qu'ils sont assez épais. Mais là vous avez une belle grille et vous pouvez. Juste cocher des modèles de rapport si vous faites un audit d'une méthodologie de test, etc. C'est bon. Donc ça, c'est un ensemble de ressources qu'on a mis à disposition. Donc tout est en licence libre. Donc c'est des documents, c'est des Creative Commons, etc. On est en train de prendre en compte d'autres sujets. Hein, parce qu'il y a à comprendre. Voilà. Etc. Bon, là, je mets en place juste des choses qui sont en cours. On a prévu également, un peu comme le fait accéder web, des choses pour les développeurs, parce qu'on s'est rendu compte que on avait besoin pour aider les autres administrations quand elles font des appels de prestations, puisque l'administration. Vous savez, fait beaucoup appel à des sociétés de services. On leur demande des développeurs, ils vont les amener. Mais si on a des développeurs qui connaissent le web, ils ne connaissent pas en fait. Donc le problème, c'est comment leur faire comprendre ce qu'on attend d'un développeur qui connaît l'accessibilité. Donc on a mis des guides comme ça, au moins ils peuvent prendre en compte. Mais on s'est rendu compte que ce n'était pas suffisant. Hein. Donc on est en train aussi de préparer d'autres choses. Je pense que c'est vraiment dans les questions. Voilà, je vous ai mis un certain nombre de choses qui sont en cours de préparation, y compris des guides pour la production de livres numériques accessibles et qui prennent en compte le fameux format EPUB qui a été cité précédemment. Et on fait beaucoup de choses. Voilà, et ce qui était complémentaire à faire, c'est pour que les prescripteurs, ceux qui font les cahiers des charges pour les marchés, ils sachent comment traiter l'accessibilité, faire l'expression de besoin du développeur en accessibilité dans leur expression de besoin. Sinon, ils disent, je veux développer un site web, j'ai besoin de machin, il faut que ce soit accessible. Là, il y a tout le monde qui répond. C'est pas très bon. Voilà. Et alors, dans la feuille de route... mais c'est bon. Quand il y a, quand on donne un label e-accessible, je l'ai écrit tout à l'heure, mais on demande aussi que le service qui obtient ça, il nomme un référent accessibilité numérique. Voilà, c'est lui qui va être un peu le garant que ça s'est été bien fait et que ça continue à rester accessible. Donc que ça va permettre de créer une communauté comme ça, qui va permettre de capitaliser si on peut tous échanger ensemble entre référents d'accessibilité numérique. Bon, après, de toute façon, on est en train aussi de travailler sur d'autres souches de produits pour essayer de voir si on peut améliorer leur aspect d'accessibilité.
Il faut le vocaliser, parce qu'il y en a qui ne voient pas, et puis on a transcription.
Ah oui, puisqu'on est en train de mener un chantier de réflexion pour permettre, sur une suite libre, qui est suite bureautique libre, qui est assez utilisée, qui s'appelle LibreOffice, on est en train de travailler un chantier de comment on pourrait contribuer, comment l'État pourrait aider à pousser la mise en accessibilité ou améliorer l'accessibilité de LibreOffice. Alors là, j'ai cité LibreOffice, qui est un des chantiers, mais il faut dire qu'on en prépare d'autres. Mais pour le moment, on ne peut pas encore en parler. Mais ce n'est qu'un exemple, non, c'est pour vous dire qu'on a, on a pas mal d'idées. Et puis comme tout à l'heure, quelqu'un avait parlé des projets d'investissement d'avenir, et c'est pareil, dans les projets d'investissement d'avenir, nous faisons attention à ce qu'ils aient la qualité au sens accessibilité. Voilà.
Merci.